Hello tout le monde, vous écoutez Perds pas ma page, le podcast où l'on parle coup de cœur littéraire avec des artistes que vous connaissez ou que vous allez découvrir. Je suis Edouard Bonamour et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce 9e épisode de la saison. Cette semaine, je reçois le chanteur, compositeur et interprète Oscar Henton. On connaît tous l'adage « quand on veut, on peut ». Tu sais, le truc que ta mère te répétait sans arrêt quand t'étais gamin. Eh bien, Oscar, lui, il est la représentation parfaite de cette expression. À 25 ans, il a quitté son label de musique pour se lancer en indépendant. On y reviendra d'ailleurs un peu plus tard dans cet épisode. Libre comme l'air pour composer sa musique depuis chez lui, il s'est lancé le défi fou de sortir 3 morceaux par mois pendant un an en 2020. Il en a gardé le meilleur dans un double album de 28 titres, rien que ça, intitulé Home of Sanity. 28 titres pour, comme il le dit lui-même, chiller, étudier et danser tout seul dans sa chambre. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore la musique d'Oscar, vous allez voir que la promesse est largement tenue. On s'est retrouvé en début d'après-midi dans une terrasse bondée du 10e arrondissement parisien. Alors perds pas ma page, c'est parti, je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Salut Oscar.
Salut. Merci de m'avoir, c'est chouette.
Avant qu'on commence, je veux juste te rappeler en deux mots le principe du podcast. Donc tu m'as donné 3 titres de livres. Ces livres, ils t'ont marqué ou tu les as particulièrement aimés. Tu vas m'expliquer pourquoi tout de suite. L'idée, encore une fois, c'est vraiment pas de faire une étude de texte. Ouais. C'est plus pour que vraiment tu nous donnes envie de les lire et que... Et puis voilà, tu nous expliques un peu qui t'es aussi à travers ces bouquins, toi, pourquoi bien tu sûr. Les as aimés, quoi.
Bah, c'est cool en tout cas, merci de me donner l'opportunité de parler de ces livres parce que moi je suis pas un énorme lecteur, donc c'est-à-dire que je vais pas dénicher les perles dans les librairies, je suis pas du tout comme ça.
Qu'est-ce que t'appelles un énorme lecteur?
Un énorme lecteur, un gros lecteur comme peuvent l'être par exemple mes amis, c'est pour moi un gars qui lit déjà plus de 3 livres par mois.
Okay.
Et donc peut-être qu'il y en a beaucoup, mais moi je fais pas partie de cette catégorie. Et même je me considérais comme un petit lecteur.
D'accord.
C'est-à-dire que je dois avoir des phases où je vais... En fait, je pense que c'est un peu comme tout. À partir du moment où on plonge dedans et qu'on commence à aimer un livre, on a envie d'en lire un autre. Et c'est un peu une spirale qui s'arrête uniquement si on est pris par autre chose. Et moi, ce qui se passe un peu souvent, c'est que voilà, je suis pris par la musique ou j'en sais rien. Et donc, je m'arrête un peu de lire. Et donc, j'ai des longues périodes où je lis plus et des courtes périodes où je lis beaucoup. Et voilà,
c'est pas grave. Ça. C'est très bien aussi. Tu veux commencer par lequel? Tu veux qu'on parle duquel?
Écoute, je vois le discours là en premier de Fabrice Caro, donc on peut partir là-dessus. Hein.
Le discours de Fabrice Caro. Est-ce que déjà tu saurais me le résumer un petit peu le discours?
Bien sûr. Moi, c'est un livre que, alors moi, je l'ai découvert avant, là, donc j'ai appris avec plaisir qu'il sortait en salle. Mais moi, je l'ai découvert il y a un petit moment maintenant. Alors, je sais plus quand est-ce que je l'avais lu, mais je crois qu'il y a au moins un an. Et alors, pour résumer, c'est, en fait, le résumé est plutôt simple. C'est Adrien qui vient de se faire, enfin il s'est pas fait larguer, il est en pause par sa copine Sonia et qui lui en, voilà, y a, ça, je crois que ça fait un peu plus d'un mois qu'il est en pause avec cette fille là. On comprend qu'il fait que y penser. Il se décide enfin à lui envoyer un message 38 jours après, je crois que je suis comme ça, ou 32, et qui reste sans réponse pour l'instant. Et on est ce même jour d'envoi du message, le soir, il a une réunion de famille, enfin une réunion, un dîner familial plutôt. Avec sa sœur, ses parents et son beau-frère. Et il apprend lors de ce dîner familial qu'il doit écrire un discours pour sa sœur au mariage. Et donc ça, allié à le message non répondu, fait qu'il se pose tout un tas de questions pendant ce dîner. Et donc tout le livre, c'est lui, on est dans la tête du personnage principal, Adrien. Ses pensées qui ne font qu'osciller entre... le discours un peu futile de ses parents et la question qui devient peut-être même existentielle de ce message qu'il a envoyé à son ex-copine, enfin son actuelle en-break copine,
ouais.
dont il attend encore la réponse, quoi. Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce bouquin? Tu m'as fait un résumé avec un grand sourire jusqu'aux
ouais.
oreilles.
Ben parce qu'en fait, moi, je me retrouve assez dans le personnage d'Adrien.
Ah, merde.
Non, mais je pense que, très sincèrement, je pense qu'on peut tous y retrouver. Et je trouve que déjà, c'est un livre qui est écrit, enfin il se lit très naturellement pour moi qui, comme encore une fois, qui suis pas un grand lecteur, je l'ai vraiment apprécié du début à la fin. Il se lit d'une traite, c'est très simple à lire, je trouve. Et pour autant, en tout cas chez moi, il a suscité quelques émotions que j'avais déjà dû vivre en fait.
C'est-à-dire lesquelles? Est-ce que tu te souviens?
Bien sûr, bien sûr.
Le texto avec écrit vu et personne te répond, c'est ça?
Exactement, c'est ce truc-là de quand on envoie un message à quelqu'un qui nous est cher ou hyper important, on fait que penser à cette chose-là et donc tout le reste n'a plus vraiment d'importance, n'a plus vraiment de saveur. Tout ce qui nous importe, c'est cette seule et même idée de la personne, la conversation qu'on a avec la personne ou l'attente d'un texto, là en l'occurrence. Et moi, je m'y retrouve beaucoup. Je vois très bien ce genre de conversation où on a l'impression que... Enfin, je me souviens que dans le livre, il parle de trucs genre de chauffage au sol ou de... Et du coup, pour le personnage principal, ça n'a aucun sens de parler de ça à ce moment-là, alors que lui attend quelque chose de beaucoup plus important.
Ouais.
J'ai toujours eu un peu ces moments-là où finalement je me retrouvais au milieu d'une soirée dans une discussion où j'en avais absolument rien à faire en fait des études de quelqu'un ou moi de parler de mes études et tout. Et je pensais juste à une seule chose, c'était soit ma copine de l'époque, soit le texto de quelqu'un que j'attendais. Et je m'y retrouve assez. Et je trouve que du coup, ce qu'on pourrait penser comme un peu de sorte d'égocentrisme au départ, il fait que parler de lui en fait tout au long du livre. Bah en fait, je pense qu'on est tous à peu près comme ça quand il y a quelque chose comme ça qui nous arrive. En tout cas, quand on attend une réponse aussi importante, c'est impossible qu'on concentre notre attention sur autre chose et encore moins le chauffage au sol au cours d'une discussion familiale, tu vois.
C'est clair.
Donc. Je pense que j'ai vachement aimé ce livre grâce à ça, quoi. En tout cas, je me suis vachement représenté dans ce personnage-là, quoi. Tu vois.
Est-ce que toi, justement, quand t'es un peu quand tu penses trop comme ça et tout, c'est peut-être là où t'arrives à écrire ou à composer ou à faire des trucs, ou au contraire, pas du tout, justement, tu peux rien faire d'autre?
Bah, c'est assez intéressant parce que je sais que la plupart de mes potes qui font de la musique, eux, ont vraiment le délire un peu artiste en mode ouais, quand je suis triste, malheureux, c'est là où j'écris les plus belles chansons et tout. Et donc ils ont besoin d'être.
Et pas toi.
Et pas moi, et j'arrive pas à être comme ça du tout. J'arrive pas à être au bord de mon piano avec un verre de whisky, vraiment un peu triste et à écrire une teinte de chansons. Non, moi j'ai vraiment besoin de me sentir bien, heureux, épanoui dans ma vie pour écrire, quoi. Sinon, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à écrire des chansons ou même à être créatif, quoi, à penser à autre chose que la peine que j'ai. Donc moi, la peine ne m'aide pas du tout. Quand les ruptures amoureuses, les déceptions, c'est quelque chose que j'apprends beaucoup parce que je sais que ça me met ça me fait rentrer dans une phase de ma vie où wow, il ne va pas se passer grand-chose. Quoi.
Donc, pourtant, ta musique, elle est assez mélancolique quand même. Il y a un truc un peu... Je trouve qu'il y a...
Ouais.
C'est assez doux, mais il y a un peu de mélancolie aussi.
Ouais, mais t'as raison en plus. Et c'est simplement que j'aborde des... En fait, c'est toujours avec du recul que j'écris sur des situations douloureuses. Donc je pense que ces situations-là me servent, mais bien plus tard.
Ouais.
Et
j'ai le temps de faire le deuil et après tu peux t'y mettre.
Ouais, c'est un peu ça en vrai. J'ai le temps d'y réfléchir, de l'avoir intégré et de l'avoir peut-être un peu analysé aussi.
Ouais.
Et donc en fait, dans mes textes, dans mes mélodies, mais aussi surtout dans mes textes, en fait, il y a toujours une pointe de. Il y a toujours quelque chose de positif à la fin. C'est-à-dire que même si je parle d'une histoire un peu triste, d'une situation. Compliqué, elle se termine toujours positivement ou en tout cas il y a toujours une sorte de lueur d'espoir à la fin parce que c'est vraiment comme ça que je conçois moi la vie et c'est en fait comme ça que j'aimerais entendre un peu toutes les musiques. Je trouve ça hyper dur d'être dans une de se plonger dans une chanson hyper triste et d'en ressortir encore plus effondré qu'avant, quoi. J'adore qu'à la fin entendre un peu d'espoir.
Ouais, une note positive, mais c'est pour ça que d'ailleurs je trouve que le discours, il y a un truc de traiter de tout ça mais avec... C'est toujours humoristique, tu vois, Fab Caro, il y a toujours un espèce de côté, même quand
exactement.
Le personnage est dans une situation merdique, on va pas dire autre chose, il s'en sort toujours par l'humour, il y a un truc un peu pas de côté, quoi, par rapport à la réalité que je trouve hyper intéressant.
Exact, c'est exactement ça, en fait, on sent une détresse dans ce personnage, mais sur un ton humoristique tout le temps, et donc on n'est pas, c'est pas un livre bad vibe, quoi, on va le lire, on va être... C'est vraiment très drôle déjà, moi ça m'a fait beaucoup beaucoup rire et puis lui en fait la façon dont il aborde les sujets aussi, il a beaucoup d'autodérision et moi c'est ce qui me plaît en fait, que les personnages aient de l'autodérision, qu'on se marre avec eux même dans leur peine.
Ouais. Tu l'as découvert comment d'ailleurs ce bouquin?
C'est ma maman qui m'a dit, c'est ma maman qui me connaît quand même assez bien et qui sait que moi si le livre est un peu trop complexe, un peu trop long, je risque d'abandonner.
Lâcher.
Et donc elle m'a dit, comme un enfant, écoute, lis ce livre.
C'est sympa comme recommandation de lecture, c'est cool.
Elle a tellement bien fait, vraiment. J'ai J'ai adoré. C'est, voilà, donc c'est grâce à ma maman qui, elle, lit beaucoup plus que moi. Et je crois ma tante aussi. Enfin, ma tante, elle était
à fond.
Christine, c'est une grosse, grosse lectrice. Et elle me conseille beaucoup de livres, en ce moment d'ailleurs. Donc, okay. Il va falloir que je suive un peu son parcours.
T'as une pile de lecture qui va augmenter un peu trop.
Ça s'empile un peu là.
Je suis sûr que toi aussi, cher auditeur, tu le connais, ce problème de pile de lecture qui ne cesse de grandir. Alors avant de continuer, je voulais vous faire écouter un titre d'Oscar que j'aime particulièrement. La chanson s'appelle Ophélie. Imaginez que vous êtes en couple et vous avez une passion que vous ne pouvez absolument pas partager avec votre moitié. Et ça vous mène carrément à la rupture. Bon, là vous vous dites, c'est l'enfer, c'est hyper triste. Et ben Oscar, lui, il en fait un des titres les plus dansants de son album. Il le disait à l'instant, le processus créatif ne se fait pas dans la douleur et ça se ressent dans ses chansons. Vous allez l'entendre, Ophélie, c'est une balade aérienne. Il est comme ça, Oscar, même si c'est pas toujours facile, il trace son chemin, un chemin qui ressemblerait d'ailleurs à un sentier de bord de mer au soleil couchant, avec une légère brise d'été. Là, je viens de vous donner quelques éléments de décor pour nourrir votre imaginaire pendant l'écoute du titre. Alors Ophélie, c'est parti, on écoute. You think I'm fine, but you never really ask. It's meaningless to say I'm not. And I don't wanna tell the truth, 'cause nothing's gonna change. It's too late, I'm afraid. And I've already fell for you. Our picture's on the shelf, but I'm about to say, oh, Ophelia. Why don't you see that I'm in love with someone else? Oh, Fairly, why don't you see that I'm in love with someone else? Why don't you see that I'm in love with someone else? Oh, Fanny, why don't you see that you should be with someone else?
On passe à un deuxième livre, je sais
carrément.
Pas. Si on fait celui direct en dessous, si tu veux.
Écoute, on peut aller dans le même temps. Je dirais, parlons d'abord de Mike Horn.
Allez, vas-y.
Enfin, sauf si tu voulais.
Non, c'est toi qui choisis. Ça me va très bien.
Ok.
Mike Horn.
Ouais.
Vouloir toucher les étoiles.
Exactement.
Alors, Mike Horn, on le rappelle un peu là pour ceux qui écoutent, mais c'est donc l'explorateur Mike Horn. Mais je sais même pas s'il se définit comme explorateur, on est d'accord ?
Si, je crois que oui. Hein.
C'est ça, ouais.
Il s'écrit peut-être plutôt comme aventurier.
Ouais. Un aventurier de l'extrême.
Ouais, c'est ça.
Connu dans le monde entier pour repousser les limites du possible. Et ouais.
Et ouais. Ça, quand on dit ça de toi, c'est quand même pas mal.
Ouais, j'avoue.
Ça fait quand même
j'avoue plaisir. Que c'est quand même la classe.
Ouais.
C'est marrant que tu me conseilles ce livre. Je suis vraiment curieux de savoir pourquoi.
Que tu fais, il te tentait pas trop au premier abord ?
Non, pas du tout. En vrai, je suis fasciné par. Je suis un fan de Bear Grylls. Tu vois qui c'est, Bear Grylls ?
Ouais, exactement. La version US, quoi, un peu de
ouais, voilà. Quoi. Et je trouve que ces mecs-là qui arrivent à faire des trucs et tout. Mais, je trouve ça hyper à la fois divertissant et en même temps il y a un truc fascinant chez ces gars-là. Mais je savais même pas que Mike Horn avait écrit un roman. Un livre, tu vois. Donc je suis assez curieux que tu me racontes pourquoi.
Alors ça, tiens, je parlais de ma tante. C'est ma tante qui m'a conseillé celui-là. Donc tu vois.
C'est Christine, c'est ça ?
Et c'est Christine, exactement.
On embrasse Christine.
On l'embrasse. Mais non, c'est elle qui m'a conseillé de le lire parce qu'elle elle sait que tout ce qui est aventure et tout, c'est. Aventure, enfin des vraies aventures, quoi. De vrais personnages. Pourquoi ? En fait, je comprends très bien ce que tu veux dire aussi. Il y a un côté un peu mise en scène avec Bear Grylls, Mike Horn dans les émissions en tout cas qui sont présentées à la télé, tu vois. Il y a un côté un peu c'est impossible que ça soit vrai. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Mike Horn, c'est que lui est parti solo, sans caméra, faire le tour du monde sur je sais pas combien d'aventures, d'expéditions possibles. Et donc, alors je connais pas la vie de Bear Grylls, tu vois, mais Mike Horn, ce qui m'a fasciné d'abord, c'était son parcours en fait. C'était. Lui, il a quand même descendu l'Amazon en hydrospeed, donc c'est une sorte de petite bouée. Je sais pas si les c'est gens se rendent compte, mais c'est une sorte de petite bouée qui fait la moitié du corps.
Tu t'es allongé dans l'eau en fait et t'es.
Exactement,
et,
ouais.
C'est encastré ça. Dans cette bouée un petit peu.
Exactement, t'as le haut du corps qui est dans la bouée et le bas du corps qui est vraiment. Qui trempe dans l'eau, quoi, les pieds dans l'eau.
Ouais.
Et disons que l'Amazon, c'est pas le coin le plus tranquille pour faire une petite pas baignade vraiment. En hydrospeed. Disons qu'il y a. Des crocos, des anacondas, tout un tas de trucs, des petits poissons, enfin c'est le bordel, piranha que ça. Et donc,
c'est le bordel, c'est clair, c'est exactement ça.
On est vraiment sur un truc qu'on appelle le bordel.
Ouais.
et donc, ça m'a fasciné, il a fait ça, il a suivi la ligne de l'équateur, je crois, sur, sans transport motorisé. Enfin, il a tout un tas d'expéditions. Et ce livre-là, en fait, traite d'une expédition en fait, qui se décompose en quatre étapes, disons, mais. Qui est de gravir quatre sommets de la chaîne de l'Himalaya qui font tous plus de 8000 mètres d'altitude. Et
pareil, tout seul tout...
Cette fois-ci, pas seul, non. Là, il y va avec trois du coup, alpinistes. Parce que lui, en fait, il le dit au début du livre, il a jamais grimpé. À ce moment-là de sa vie, il a jamais vraiment grimpé, il a jamais fait d'alpinisme à proprement parler. Et donc, en fait, il s'engage dans cette expédition sans en avoir les rudiments, tu vois, sans être préparé du tout. Donc il s'entoure d'alpinistes qui vont l'aider. Et puis pas tant que ça, en fait. On va le voir aussi au fur et à mesure du livre, c'est qu'à un moment donné, tu te retrouves un peu face à toi-même dans ce genre d'expédition.
Ouais, normal. Ouais.
T'as beau être entouré, et surtout à de telles altitudes, en fait, t'es tout seul. Et donc, en fait, ouais, moi, ce qui m'a fasciné dans ce livre-là, c'est... donc, en fait, il va raconter les étapes. En fait, c'est quatre sommets qu'il gravit à la suite, mais ça se fait pas en 10 jours, en fait. C'est vraiment, je sais plus exactement sur combien de temps ça s'étale, mais c'est sur plusieurs mois où en fait c'est impossible d'accéder au sommet en une journée ou en quelques jours. Il faut faire des pauses pour que en fait ton cerveau et ton corps puissent s'habituer exactement à l'altitude. Et du coup, il a fait ces quatre sommets, mais un peu entrecoupés quoi, de quelques mois posés dans des camps, etc. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est l'expédition en elle-même, le fait de grimper. En fait, de se rendre compte qu'à partir de, je sais plus exactement à partir de combien, mais je crois que c'est au-dessus de 7000 mètres, du coup, le manque d'oxygène affecte grandement le cerveau. Et donc, on réfléchit plus de la même façon. Ouais, on peut se perdre dans les montagnes. Moi, je trouve ça fascinant, en fait, d'avoir ces... en tout cas, de voir que des hommes peuvent vraiment le faire, gravir.
Ouais, peuvent surmonter ce genre de difficulté-là. C'est un truc de dingue, ouais.
Exactement, un truc de ouf. Et puis, au-delà même de l'expérience en elle-même, moi, il y a vraiment un truc de... Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est plus vraiment c'est plus une difficulté physique, mais c'est plus mental que physique, en fait. C'est vrai que moi, je me retrouve un peu dans cette mentalité-là, un peu dans ma vie de tous les jours. Je crois beaucoup au mental et aux difficultés qu'on affronte une à une, juste par la force de notre cerveau.
C'est-à-dire le dépassement de soi, en fait, etc.
Exactement,
c'est
ouais.
Ça qui te...
Ouais. Moi, le dépassement de soi, c'est un sujet qui me touche beaucoup et que j'ai en moi, je pense, depuis que je suis vraiment petit, parce que, je sais pas, j'ai toujours aimé... Je faisais beaucoup de... Bon, ça n'a rien à voir, beaucoup
non,
moins
grave,
stylé, mais je faisais beaucoup de compétitions de tennis quand j'étais petit.
Ouais.
Et mon père me disait toujours, c'est dans la tête. Et donc, depuis tout petit, j'ai toujours eu ça de... Je peux vaincre l'adversaire si et seulement si je suis plus fort mentalement que lui, tu vois.
Ouais.
Donc, on est à des lieux d'une expédition.
Non, mais attends,
celle-ci.
C'est un truc que tu apprends par le sport aussi qui est hyper important, je trouve, d'arriver à te dire que ouais, ton mental, il peut t'emmener dans des endroits où t'as pas idée. Parfois juste par la volonté, quoi.
Exactement, cette volonté là moi, c'est quelque chose qui me suit depuis que je suis petit, et c'est comme ça que j'envisage et que je perçois tous les problèmes qui arrivent dans ma vie, tu vois, ou en tout cas une charge de travail énorme.
C'est ce que j'allais te demander, y compris dans la musique.
Ouais, bah surtout en fait dans la musique, tu vois. Et il y a un truc, je pense que dans la musique on est très solitaire aussi.
Ouais.
C'est quand même une voie où on est le seul à pouvoir y croire à 100%, en fait. Personne ne le fera pour nous, et donc sinon on n'est pas à 100% dans notre projet et qu'on ne se donne pas les moyens d'y arriver, et surtout qu'on n'y croit pas, il ne va jamais rien se passer. Et donc en fait, il y a vraiment un dépassement de soi constant, moi en tout cas c'est comme ça que je le vis dans la musique. En fait, il y a beaucoup de... C'est très compliqué. Surtout moi, dans ce que je fais en tant qu'artiste indépendant et tout, il y a toujours des... Ouais.
Non, ce que j'allais dire, ouais, toi, effectivement, t'es totalement indépendant, c'est ça. Tu fais pas partie d'une maison de disques ou d'un... T'es vraiment...
Ouais.
Tu gères ça tout seul, quoi.
Maintenant,
c'est
ouais.
C'est un choix de ta part, ouais.
Ouais, c'est complètement un choix. J'ai été longtemps en maison de disques signé. C'était... et je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi, quoi.
Ouais.
On attend beaucoup. En fait, je déteste attendre des trucs des autres. Je déteste attendre quelque chose. Et là, j'étais dans l'attente constante. En fait, il y avait toujours une sorte de planning, d'autres artistes, de machin. Et ça m'a. Je me suis dit stop. Je reviens en indépendant et vraiment, je monte mon truc tout seul. Et surtout, je le fais à ma sauce, quoi.
À ta sauce, ouais.
Et donc, en fait, c'est un. En fait, c'est ce que je disais dans cette façon de procéder complètement indépendante. J'essaie de casser beaucoup de barrières, de codes prédéfinis. Mmh. Tu vois, par exemple, il faut passer en radio pour qu'un titre fonctionne. Tu vois, il faut faire un clip dans cette esthétique, à gros budget, etc. Moi, tous mes clips que je fais, c'est des clips à l'iPhone. Les chansons, je les fais dans ma chambre.
Par ta mère, non ? C'est pas ça.
Par ma maman.
Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a un clip qui a été tourné par ta mère. Ouais.
Même quasi la totalité, en fait.
D'accord.
Tu vois.
Faut arrêter d'exploiter tes parents, par contre. Ça
ouais, je sais. Il commence à. Non, elle est très contente de m'aider là-dessus. Mais en fait, tu vois, moi, on m'a toujours dit, c'est pas. Enfin, si tu fais comme ça, ça sera pas possible. Et ça, c'est quelque chose que, enfin, je l'ai entendu plusieurs fois. Oscar, ça ne marchera pas.
Ouais.
Et je parle de moi, mais ça doit être la même chose pour tous les artistes en fait qui essayent de faire entendre leur musique. On leur a dit 150 fois, ça ne sera pas possible. Et moi, je m'obstine à dire non, ça va être possible. Et tu vas voir pourquoi ça va marcher. Et donc il y a des trucs où ça n'a pas marché, puis d'autres où ça l'a fait. Les clips avec ma tournée à l'iPhone, ça a fonctionné, tu vois.
Ouais.
Et j'en suis fier. Et je pense que ça demande énormément de. Ouais, un certain dépassement, en tout cas dépasser ce que disent les autres. Et je sais qu'il y a une sorte de référence dans le livre à un moment donné où le père de Mike Horn raconte un peu son enfance et le papa de Mike Horn lui fait une sorte de comparaison avec des arbres dans une forêt et il lui dit à un moment donné, donc dans une forêt il y a beaucoup beaucoup d'arbres, il y en a un qui va se démarquer parce que son tronc sera plus gros, ses racines plus grosses et qui dépassera tous les autres. Et il dit donc que cet arbre sera le plus beau. Tu vas te rendre compte que t'as l'impression que cet arbre est grandiose et en fait le jour où il y a une tempête c'est lui qui se prend toute la tempête en fait et ouais. Qui par ses branchages, ses feuillages protège les autres et en fait ça c'est une façon de lui dire si jamais tu veux c'est une façon de dire, je sais pas comment trop expliquer ça mais en mode si jamais tu veux aller plus loin que les autres tu vas toujours devoir un peu dépasser ta tête et c'est toi qui vas te prendre toutes les premières remarques, toutes les baffes, toutes les c'est pas possible d'y arriver, c'est pas possible de faire comme ça, etc. Mais par contre, il en faut bien un, tu vois, pour élever les autres, pour que les autres arrivent à s'élever. Alors, je dis pas que je suis en train d'élever les autres, pas du tout. Je dis juste que j'essaye d'aller un peu plus loin que ce qu'on m'a dit de faire, tu vois, et ce qu'on me dit qui est possible de faire. C'est surtout ça, tu vois.
Cool. Mais ça me donne envie de le lire, tu vois, du coup. Non, mais c'est vrai, sur le côté dépassement de soi et tout, j'avais pas vu ça comme ça, et c'est. Je pense que ça apporte vachement d'enseignement, en vrai, de réfléchir là-dessus, sur ces thèmes-là, comme ça, grâce à ça.
Écoute, voilà, en tout cas, j'ai pas trop raconté ce qu'il y a dans le livre, mais moi, c'est en tout cas ce qui m'a inspiré.
Je veux bien qu'on rebondisse, on parlait de ta mère qui filme les clips, etc.
Ouais.
Je crois que c'est elle qui a filmé le clip de Nuit d'été, non ?
Ouais, c'est ça, exactement.
Est-ce que tu peux me raconter un peu d'où elle vient cette chanson ? Que tu chantes avec ta sœur ?
Avec ma petite sœur, ouais. Ouais, c'est ça.
C'est ça ?
Exactement. D'où elle vient, c'était vraiment l'année dernière en fait je me suis dit que j'allais sortir des titres tous les mois pendant un an, c'était du coup une fois que je m'étais séparé de mes labels etc en me disant ok il faut que je sorte un maximum de musique maintenant j'ai envie d'être le plus libre possible et en fait est arrivé ce grand confinement donc je suis allé me confiner dans notre maison un peu de vacances sur la côte ouest en France et il y avait ma petite sœur qui était là et en fait elle m'avait déjà envoyé quelques mois plus tôt une sorte de mémo vocale d'elle chantant une chanson que j'avais accompagnée au piano et du coup bah comme on était confinés tous les deux que j'avais le temps et que j'étais en train de faire de la musique tous les jours et ben on s'est dit bah viens on la termine et donc on a terminé cette chanson vraiment dans le petit home studio que j'avais fait là-bas et je me suis dit bah trop cool viens on la sort dans 2 semaines ce qu'on a fait et on l'a accompagnée d'un clip qu'on a tourné vraiment sur l'heure de sortie autorisée, tu vois. On avait genre 1 heure et donc on a gratté 1 demi-heure, tu vois. Mais avec ma maman, on avait fait nos petites attestations. Et puis voilà, on est sorti vraiment à peut-être 100 mètres de la maison, quoi. Et on a tourné ça à l'iPhone sans prise de tête. Je voulais juste mettre des images sur le titre. Et voilà, on a tourné ça.
Et ça a explosé, un truc de dingue.
Ça a explosé. Ouais, ça, en tout cas, plus que. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça a explosé tous les records que j'avais jamais établis, c'est-à-dire peu. Et donc là, ça a pris une dimension un peu. C'était un peu surréaliste parce que c'est bizarre tous ces trucs-là, un peu de. Tu sais, sur YouTube, de buzz, de.
C'est impossible de prévoir la chose.
Exactement, c'est pas du tout maîtrisable. Et même quand ça commence, y a un peu un truc de putain, j'espère que ça va continuer quand même et tout ça. Et en fait, ouais, ça a fait son chemin et. Ça a pris sur YouTube comme ça a pris sur YouTube, ensuite on a retrouvé ces chiffres là sur le streaming et donc ça m'a permis de gagner un peu d'argent, ma sœur aussi.
Ouais.
Ça m'a permis de du coup d'investir sur mes autres chansons et de commencer. En fait, c'est vraiment cette chanson qui m'a permis, tu vois, d'avoir une sorte de une petite croissance même économique, même en indépendant, et de pouvoir réinvestir sur les autres chansons. Et
ouais, puis j'imagine d'y croire à nouveau, parce que tu dois forcément avoir des moments de doute, même si t'as l'air d'être très positif et très à fond dans ce que tu fais, mais j'imagine que c'est pas évident, faut garder la pêche, quoi, quand ça marche, ça redonne un peu
bien sûr.
Un truc en plus, quoi.
T'as raison, et c'est franchement, c'est arrivé, c'est un peu arrivé comme un cadeau, parce que... moi, effectivement, à ce moment-là, ça faisait 5 mois déjà que je sortais des 2 titres, 3 titres tous les mois, et il se passait rien, quoi. Il se passait, enfin, rien, pas grand-chose.
Ouais.
Et donc, c'est le premier titre où vraiment j'ai commencé à avoir un vrai support, et sur un support organique, c'est-à-dire des gens, des vraies personnes, quoi, derrière leur ordi, qui juste aimaient la chanson, la repartageaient, et pas juste un média qui a aimé le truc, c'était vraiment les gens qui, d'eux-mêmes, trouvaient la chanson.
Ouais.
Et donc, c'est sûr que ça... J'ai toujours eu confiance à 100% dans ce que je faisais, en mode si ça arrive pas tout de suite, c'est parce que ça doit pas arriver tout de suite. Ouais. Ça arrivera, lâche rien.
Fataliste.
On peut rien faire, donc de toute façon, tu vois. Donc lâche rien, ça va le faire. Mais effectivement, c'est tombé à un moment donné où putain, moi, ça faisait 5 mois que je galérais tout seul, en plus confinement, etc. C'était dur, quoi. Donc je suis hyper content que ce soit arrivé à ce moment-là.
En plus de vivre ça avec ta sœur, c'est sympa quand même.
Très cool en plus, tu vois, elle, c'était son premier titre. Alors elle, c'est marrant, elle s'en rend pas du tout compte. Tu vois, elle est vraiment en mode ouais, c'est cool, on fait 1 million de vues. Oui, c'est pas mal, quoi.
Quoi?
Je suis en mode tu sais. Tu vois, moi, ça fait 5 ans que je galère pour ça et tout. Donc elle est. Mais c'est trop cool. Et moi, je trouve ça trop bien parce que. Et c'est vraiment comme ça qu'on l'envisage aussi. On se prend pas du tout au sérieux sur la musique qu'on fait. Enfin, pas dans le sens où on fait pas de la merde quand on écrit des chansons. Juste. On pense pas du tout à comment elle sera perçue, tu vois.
C'est le plaisir de faire de la musique et de...
Exactement, ouais. C'est vraiment ça, et c'est ce qu'on veut garder, surtout maintenant. Même si on a eu un titre qui a bien marché, on veut vraiment rester dans cette dynamique de on va sortir exactement ce qu'on a envie de sortir. Peu importe ce qui a marché, pas marché. Et le deuxième titre qu'on a sorti, c'est un titre qui n'a rien à voir avec le premier.
Ouais.
Et qui est peut-être un de mes titres préférés de tous les titres que j'ai écrit et qu'on a écrit avec ma petite sœur. Enfin voilà, du coup, on est. Elle, pour elle, c'était.
C'est juste du kiff, quoi.
Ouais, carrément. Mais ça lui donne envie, tu vois, d'avancer un peu quand même.
Ah, c'est cool.
D'en faire de plus en plus, tu vois. Elle se dit, ah tiens, on peut on peut vivre de ça.
Ça faire m'intéresse.
Faire des concerts, faire de la musique, c'est quand même cool comme vie, tu vois.
Moi, j'imagine. On écoute Nuit d'été.
On me dit, arrête, tu te fais du mal. Mais si j'ai mal à la tête, c'est que tout me ramène à toi. Et j'en ai marre de voir tes yeux quand je ferme les miens. Là. Pas pris de retard, juste un autre chemin. Même couleur qu'avant, mais moins de lumière. J'aimerais écrire d'autres mots, mais on ne lit que dans les rêves. Et je sais bien, tout ça doit sûrement te faire rire. Mais donnez-moi le temps d'entendre ces sourires. Alors t'arrêtes pas, non j'ai plus mal à la tête. Je ne vois plus que toi, tu dois trouver ça bête. Et ne t'en fais pas, relève la tête, le ciel est bleu. Le soleil se couche et tout redémarre. s'épuiser. Je veux retrouver toutes nos nuits d'été. Tous ces souvenirs, je pourrais écrire pendant des heures. Et je te laisserai pas tomber. Je repousserai nos pleurs, alors t'arrêtes pas. Non, j'ai plus mal à la tête, je ne vois plus que toi. Tu dois trouver ça bête, mais c'est bon. Je crois que je peux m'endormir tranquille. Maintenant j'ai écrit ça, tout me semble plus facile. Et le soleil se couche et tout redémarre. Écoute les mes rêves gris s'envolent dans le noir de la nuit. Et j'en ai passé du temps à écrire toutes ces lignes. Et je suis encore hésitante. Est-ce que c'est vraiment utile? C'est vrai, le temps passe vite. Oui, mais c'est facile à dire. Moi j'ai plutôt l'impression qu'il ne fait que ralentir. Et j'en ai passé du temps à écrire toutes ces lignes. Et je suis encore.
Donc on passe au dernier livre que tu veux me recommander, que tu as lu et que tu as aimé,
ouais.
Qui est Lettre à un jeune poète.
Ouais, effectivement, Lettre à un jeune poète que j'ai lu très tardivement. J'en ai parlé à ma petite sœur, je crois, hier en disant qu'on avait cette interview aujourd'hui et que j'allais parler de ce livre-là. Elle m'a dit « Ah bah je l'ai lu au bac ». Et
ah ouais.
Je l'ai lu pour le bac, je fais « Ok, nickel, je suis grave en retard ». Et moi je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça.
C'est-à-dire tu l'as lu
Je l'ai lu peut-être, allez, il y a deux mois, tu vois.
Ok, ok.
Donc c'est plutôt frais dans ma tête. Du coup, ce livre, c'est une correspondance en fait entre un jeune auteur, un jeune poète, qui se veut poète mais qui est encore en école militaire d'ailleurs, il me semble que c'est ça, et qui en fait se rend compte que dans cette même école où il est, avait étudié un certain Rilke. Alors je sais pas comment on prononce
Rilke. Rilke, je pense.
Rilke.
Ouais, je sais pas, ouais.
On va dire Rilke.
Rilke.
Ok, c'est allemand. Donc Rilke. Ok, et en fait, c'est qui est à cette époque-là déjà un auteur connu, et il décide de lui envoyer une lettre en disant qu'il admire son travail et que du coup ils ont étudié dans la même école et que voilà, juste pour lui présenter quelques poèmes et lui demander son avis. Et la première lettre du coup de Rilke qui lui répond. Donc déjà, moi je trouvais ça hyper étonnant qu'un
voilà, mec lui réponde.
Reçoive une réponse, déjà c'est stylé. Et c'est en fait, tu devrais pas. Sa lettre est très très gentille, mais il lui dit tu ne devrais pas demander l'avis de qui que ce soit sur ton art. Ton art n'appartient qu'à toi, et c'est toi le seul. Comment dire
Le seul maître de ce que tu fais et de ce que.
Exactement, c'est seul toi peut juger de la qualité de ton travail. Alors tu peux t'inspirer d'autres et tout, mais seul toi pour en juger. Et c'est surtout que tu vas. Il lui dit tu vas évoluer avec le temps. Ce que tu peux penser bon aujourd'hui sera peut-être pas bon plus tard, mais c'est ton évolution naturelle, il faut que tu la respectes. Et en fait, du coup, on entame une relation un peu épistolaire entre les deux poètes. Je crois que l'un à ce moment-là, du coup Rilke à ce moment-là, il doit avoir 28 ans et l'autre 20 ans. Et en fait, cette relation-là, elle va durer, ces échanges de lettres vont durer, je crois, 5 ans, un truc comme ça, sur quelques années. Et en fait, tout au long, donc en fait, ce livre-là, c'est 10 lettres qu'a envoyé Rilke à ce jeune poète, où il lui explique, où il répond du coup à toutes les lettres du jeune poète, mais qu'on ne verra jamais. On voit juste les réponses de Rilke, où il, en fait, il lui donne des conseils de vie. Et c'est vraiment ça. C'est plus que des conseils sur l'art, la poésie. C'est ça, des conseils de vie. Comment vivre en tant qu'artiste. Alors il y a un truc un peu. Il y a deux côtés de ce livre. Un côté que j'ai adoré et un autre que je trouve un peu prétentieux.
Ah ouais. Ouais. Pourquoi? Dis-moi.
Bah, le côté prétentieux parce qu'il en fait il se met à l'écart du monde en tant qu'artiste avec un grand A, tu vois.
Il dit
au jeune poète tu n'es pas comme les autres, tu ne seras jamais comme les autres et personne ne pourra te comprendre.
Okay.
Et n'essaye pas de comprendre les autres parce que c'est un monde qui ne t'appartient pas. Et donc en fait il catégorise un peu, je trouve, les artistes comme des personnes à part mais un peu supérieur, tu vois.
Ouais,
enfin, moi, je l'ai
ouais.
perçu comme ça.
Ouais.
Et moi, je perçois pas du tout les artistes de cette façon-là. Je pense qu'au contraire, on est comme tout le monde. C'est juste qu'on a choisi de faire de l'art, mais on n'a rien de particulier, tu vois. Moi, je m'y retrouvais là-dedans. Par contre, à côté de ça, à côté de cette vision un peu prétentieuse, il y a quand même des conseils de vie absolument magnifiques que j'ai trouvés. Et des conseils de vie, mais aussi sur comment appréhender son art, comment vivre en tant qu'artiste et accepter le développement, la patience, la solitude. Tout ça, c'est des sujets qui reviennent très, très, très souvent dans ce livre-là. Et moi, qui m'ont beaucoup touché parce que c'est des trucs que je vis au quotidien, en fait. Et je me suis retrouvé quand même, pas à 100%, mais beaucoup dans les propos de Rilke, tu vois. Et, notamment, je disais la solitude, mais notamment là-dessus, en fait. Il dit que Il dit que la solitude, elle est indispensable à l'art. Et qu'en fait, cette solitude permet de grandir et de se développer et de ça. Et c'est vrai que moi, putain, je suis tout seul tout le temps, quoi, tu vois. Et... non, c'est un peu vrai.
J'adore, tu dis ça avec un grand sourire. Mais... je suis dans une solitude, mec, mais alors vraiment.
Et puis, je suis dépressif, tu vois.
mais sinon, ça va. Enfin,
mais écoute, à part ça, écoute. non, pas du tout, parce que franchement, moi, je suis.
Mais elle t'est douloureuse, cette solitude, ou pas?
Non.
Forcément, au contraire, elle te.
Au contraire, tu vois. C'est pour ça que je le dis en souriant, c'est qu'elle n'est pas douloureuse. Pour... alors, elle l'est à certains moments, quand ça fait trop longtemps, quand. Quand il y a des confinements qui s'ajoutent à cette solitude, tu vois. Donc, elle en devient de temps en temps douloureuse, mais à la base, elle ne l'est pas vraiment. Et surtout, moi, j'en ai besoin, en fait. J'ai beaucoup de mal à être constamment entouré, et surtout dans la création. Moi, quand j'écris, comme je te disais, c'est dans ma chambre, devant mon ordi, tout seul, tu vois. Et je suis vraiment enfermé, il n'y a personne pour me dire quoi que ce soit. Ouais. Et je déteste avoir l'avis de quelqu'un quand une chanson, par exemple, n'est pas terminée. Je déteste qu'on me dise « Ah, tiens !»
Mais comment tu sais quand elle est terminée ?
Il n'y a pas de... je me fie vraiment à une sorte d'instinct, un truc un peu spontané, où juste si en écoutant la musique je me dis putain c'est vraiment bien, bah voilà, tu vois, c'est terminé, il y a pas de parce qu'en fait c'est possible de jamais finir une œuvre, tu vois, tu peux toujours ajouter des trucs et je pense que la justesse c'est quand on arrive à pas aller au-delà de quelque chose qui pourrait de pas aller dans le surplus, et ce surplus là il est super dur à identifier, tu vois. Mais donc c'est pour ça que moi je me fie vraiment à mon instinct, en mode si à un moment donné je me pose en écoutant la musique en me disant ouah là c'est franchement cool. J'adore l'écouter, et bah c'est bon, c'est terminé, j'ai pas besoin de pourquoi est-ce que je rajouterais autre chose, tu vois.
C'est un process qui est douloureux pour toi ou qui se fait de manière quand même plutôt fluide, ou ça dépend des chansons peut-être?
J'ai envie de te dire un peu oui et non, parce que la création pour moi est quand même douloureuse. C'est bizarrement pas un truc que j'aime entamer. Genre, je déteste me dire allez, faut que je fasse une chanson. Ça m'emmerde, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une montagne devant moi. Tu vois, ce process-là est super dur. Pour autant, une fois que je suis dedans et une fois que j'ai trouvé les idées un peu principales, j'adore m'y mettre, me plonger dans la production. Et je pense que en fait, plus on s'y plonge et plus on y trouve du plaisir, parce qu'on devient meilleur aussi, et que ça, du coup, tout vient plus naturellement.
Ouais.
Et tu vois, c'est un producteur de musique, s'il connaît bien tout son studio, tous ses instruments, bah tout va être fluide, et donc il entend déjà les notes avant de les jouer. Et c'est un peu ça en fait. Pour moi déjà, je crois beaucoup à ce que pouvait dire Brel, par exemple, le talent ça n'existe pas. Je crois beaucoup à ça, moi je crois beaucoup au travail.
90% de sueur et 10% de talent, c'est ça, un truc dans le genre.
C'est un peu ça. Ouais. Et moi je crois énormément à ça. Pour moi, le talent en fait, c'est quelque chose qui se travaille. Ce qu'on appelle talent, c'est juste des heures et des heures et des heures et des heures passées à peaufiner son art et à se trouver, quoi. En ce moment même, pour tout te dire, je suis vraiment. Je commence la méditation.
Okay.
Et je suis vraiment en train de me dire. En fait, tu influences tes journées. En fait, si tu pars avec une vision positive de tes journées, bah, tes journées seront de toute façon plutôt positives. Et en fait, c'est toi le maître de tes journées. C'est-à-dire que...
Du coup, tu essaies de faire quotidiennement de la méditation?
Bah, là, je te dis ça fait 5 jours. Donc, je suis.
tu vois. On est sur le début, mais il faut bien commencer.
On est vraiment sur le début. Le début des débuts. Mais je sais pas, j'avais l'impression que là, en ce moment, il y avait beaucoup de choses qui se passaient et le travail devenait difficile, tu vois, douloureux.
Ouais.
Plus qu'il l'est toujours un peu, mais là il devenait très douloureux. À savoir, comme je gère beaucoup de choses tout seul, et bah, ça devient très dur d'être partout, quoi.
Ouais.
Et donc, je sais pas, j'avais besoin de
reprendre un peu un temps pour toi.
Ouais, exactement. De reprendre un temps pour moi et surtout de concevoir les choses de façon différente. Peut-être qu'il y a du stress un peu partout, il y a des trucs que je dois rendre et machin et tout ça. Mais au final, en fin de compte, je fais de la musique, quoi, tu vois. Je fais ce que j'aime tous les jours et là je passe 2 semaines à faire de la musique tous les jours en studio avec des gars trop cool. Enfin, il faut juste remettre les choses parfois. Il faut prendre un peu de recul pour remettre les choses en contexte et j'ai l'impression que la méditation aide un peu à faire ça.
Ouais.
C'est ridicule, je m'y connais absolument pas en méditation, mais ces 5 jours.
C'est pas ridicule du tout.
M'ont déjà
bien aidé,
tu vois.
Si on devait retenir juste par rapport à l'être un jeune poète, l'enseignement, ce serait. C'est quoi, c'est de croire en toi, de... Qu'est-ce que t'en as retenu de ce livre-là?
Ouais, ce que j'en ai retenu, c'est que comment dire, l'artistique prend du temps. Ça prend du temps pour se construire, pour se trouver artistiquement. Et il ne faut pas en avoir peur. Et il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, ou en tout cas d'aller dans une direction qui sera opposée de celle qu'on prendra 10 ans plus tard. Parce que parce que je suis assez fataliste finalement dans l'idée de me dire que si je fais ça aujourd'hui, bah y a une raison derrière tout ça en fait. Ouais. Si je me trompe, bah c'est parce que plus tard je me tromperai pas dans un moment plus important. Et en fait, je l'ai retrouvé vachement dans ce livre là. Et c'est assez spirituel en fait, tu vois. Et c'est pas vrai, c'est pas terre à terre sur la poésie et comment on doit écrire, pas du tout. C'est des conseils de vie à des gens qui s'intéressent à l'art, quoi. Voilà.
Génial, cool. Merci, voilà. Oscar.
Bah, merci à toi.
Pour terminer, j'ai pour habitude d'offrir un livre à la personne que je rencontre.
Ah ouais ?
À l'artiste que je rencontre. Alors, tu me dis que t'es pas un grand lecteur, donc c'est pas grave. Même si tu le lis dans 10 ans, c'est
pas
grave.
Ah non, mais attends, par contre, si on m'offre des trucs, je lis. Hein. Non, c'est cool.
Que si c'est un cadeau.
Que si c'est un cadeau.
Comme ton album, il est un peu. Tu fais du surf ou pas ? Je me suis demandé.
Ouais, j'en fais beaucoup. Ah ouais, c'est ma grande passion en fait.
Ah ouais, c'est vrai. Bon, alors. C'est donc Jour Barbare de William Finnegan. Une vie de surf. Est-ce que t'as pas lu ce bouquin ?
Pas du tout, okay. Jamais.
Pour te dire en deux mots, donc William Finnegan, c'est un journaliste américain qui bosse pour le New Yorker.
Ok.
Il a parcouru le monde vraiment pour le New Yorker, sur des terrains de guerre, etc. Et en fait, il a une passion depuis qu'il est tout petit, c'est le surf. Et donc à chaque fois qu'il va quelque part, à chaque fois qu'il est sur un terrain pour le boulot, etc., il est parti surfer. Et en fait, il raconte dans Jour Barbare toute cette double vie qu'il a en fait, parce que il en parle vraiment comme une double vie, quoi. C'est une passion, c'est un truc qu'il a dans la peau et okay. dont il peut pas se détacher. Il faut que quand il est quelque part, il aille surfer. C'est pas hyper simple à lire, à savoir que moi qui n'y connais rien en surf, parfois moi j'ai dû m'accrocher. Okay. Mais ce que j'en ai retenu, c'est ce côté la passion déjà, le fait d'être passionné par un truc. Okay, au point que tu puisses pas t'en détacher et que ça nourrisse ta vie, tu vois, tous les pans de ta vie doivent être liés à ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis voilà, c'est un espèce d'autoportrait aussi super intéressant et bon, tu sens que le gars il sait bien écrire aussi, hein, tu sens que c'est son métier. Donc voilà, c'est franchement hyper intéressant et donc voilà, Jour Barbare.
Merci beaucoup, franchement tu pouvais pas mieux choisir, c'est vraiment ma passion quoi, le surf à côté de la musique.
J'avais pas, en vrai je l'ai pris en disant, je trouve que comme ton album il peut vraiment s'écouter tranquille l'été, un peu à la plage, peinard et tout.
C'est ouf.
Je me suis dit tiens, ça correspond bien.
Merci beaucoup, je le prends, c'est super gentil. Et je t'assure que je vais le lire, ça c'est certain, toi qui m'offres du coup ce livre, je vais le lire. Et puis et ça je comprends, en deux secondes je comprends très bien le fait de vouloir surfer un peu partout. Le surf c'est une passion extrêmement prenante et on le voit partout quoi. Partout où on va on a besoin de surfer, tu vois, si y a la mer pas loin et des vagues. Donc je le comprends, écoute je vais le lire avec grand plaisir, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Ça me fait super plaisir.
J'espère que tu vas aimer, mais franchement c'est vraiment un excellent bouquin. Il a eu le prix Pulitzer d'ailleurs pour ce livre.
Ah ouais, d'accord.
Et ouais non, franchement c'est
je un... dis ah ouais d'accord, je connais le prix Pulitzer mais je ne sais pas ce qu'il représente exactement.
Bah, c'est quand même un prix assez important.
Ok.
Et non il est vraiment vraiment très chouette.
Ok, prix Pulitzer 2016. Ok. Ah ouais, élu meilleur livre de l'année par le magazine America, ça démonte. Ok.
Ouais.
Bah merci beaucoup.
Ben merci à toi Oscar, franchement c'était hyper sympa.
Ouais.
Merci d'avoir pris le temps. Et puis on va écouter tes chansons, on va aller te voir en live, on va être à fond.
Ouais, c'est gentil.
Ça va être cool.
J'espère. Merci beaucoup pour ce moment et à bientôt.
À plus, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie d'en découvrir un peu plus sur l'univers d'Oscar Henton et surtout, j'espère qu'il vous aura donné envie de lire. Je vous rappelle que l'album d'Oscar, Home of Sanity, est à découvrir sur toutes les plateformes. Vous retrouverez tous les détails des livres dont on vient de parler sur le compte Instagram et Twitter de Perpamapage. Avant d'aller écouter la musique d'Oscar ou d'ouvrir votre livre, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Il est temps pour moi de vous laisser et de vous souhaiter une très bonne semaine. On se retrouve mardi prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, très bonne lecture.